lundi au vendredi à 17h, c'est le Réseau Urbain. Votre émission d'actu sur Graffiti Urban Radio, sur le 88.6 et sur urban-radio.com. Le Réseau Urbain avec Benjamin.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus dans cette émission spéciale à l'occasion des Journées du Numérique organisées par la Bibliothèque Universitaire de La Roche-sur-Yon. Dans cette émission enregistrée en public dans la bibliothèque du Pôle Universitaire Lyonnais, on va tout savoir sur cette première édition des Journées du Numérique, des journées qui organisent un ensemble de rendez-vous proposés à l'ensemble de la communauté universitaire, les étudiants, les enseignants, les personnels, mais aussi à tout le monde, en tout cas toute personne intéressée par ces questions. Au sommaire de cette émission, pendant une heure, eh bien, dans un premier temps, je recevrai Sandrine Laurent, responsable de la bibliothèque universitaire, et Nathalie Rondeau, responsable culture des BU. On va voir avec elle, eh bien, faire le point de tout ce que sont ces journées, comment elles sont organisées, leur programmation, ça dure jusqu'à jeudi. Et puis ensuite, on ira à la rencontre du Lab West, le Fab Lab de La Roche-sur-Yon. C'est Mathilda, étudiante à l'IUT de La Roche, qui va nous proposer cet entretien avec Emmanuel Faure. La seconde partie de l'émission sera consacrée à des ateliers, ateliers copie party, repair café, mais aussi l'obsolescence programmée. Et puis des débats également. On sera en plateau avec Olivier Herched. Et puis pour terminer, Julie, elle aussi étudiante à l'IUT de La Roche, viendra interroger Sullivan Joanneau, enseignant-chercheur sur le thème du numérique au secours de la biologie. On commence donc cette émission. Bonsoir, bonjour. Il est encore un peu tôt pour dire bonsoir. Donc je suis avec Sandrine Laurent, responsable de la bibliothèque du Pôle Universitaire. Bonjour.
Bonjour.
Et puis également avec Nathalie Rondeau, qui est responsable culture des BU. Bonjour.
Bonjour.
Alors on est chez vous. Merci de nous accueillir dans un premier temps.
Merci à vous d'être présent et de parler de nos journées du numérique.
Eh bien, les journées du numérique, justement, parlons-en sans plus tarder. On va commencer par rappeler, dans un tout premier temps, où on est. On est dans une bibliothèque universitaire. C'est quoi une bibliothèque universitaire? Finalement, vous êtes habitués, vous y êtes tous les jours, les étudiants aussi. Mais pour ceux qui écoutent Graffiti et qui pourraient se demander à quoi ça sert une bibliothèque universitaire, qu'est-ce que c'est?
Eh bien, une bibliothèque universitaire, c'est un lieu pour les étudiants, pour la communauté universitaire, mais également pour tous les publics, puisque c'est ouvert à tous les publics. Nous proposons bien évidemment des collections documentaires, que tous les publics peuvent emprunter, mais c'est également un lieu de travail, nous avons une salle de travail de groupe, c'est un lieu de formation également, puisque nous proposons beaucoup de formations à la recherche documentaire. Voilà, c'est un service commun à l'ensemble des étudiants, des enseignants, et comme je le disais, disponible à tous les publics qui souhaitent venir.
Oui, c'est ça. C'est disponible donc pour les étudiants, pour les enseignants, pour le personnel. Évidemment, j'allais dire, les gens qui sont là, qui sont autour de nous et qui sont tous les jours dans ce pôle universitaire lyonnais, mais également toutes les personnes de l'extérieur qui veulent se renseigner sur tel ou tel sujet. Là, vous avez pas mal de choses à disposition et ces choses-là, elles sont à disposition pour tout le monde.
Elles sont à disposition pour tout le monde, effectivement, et l'espace de travail est disponible librement et gratuitement à qui le souhaite.
À qui le souhaite. Bah, c'est parfait. C'est aussi un petit peu la philosophie... dites-moi si j'ai raison, mais je pense que j'ai raison en disant que c'est un peu la philosophie de ces journées du numérique aussi. Là aussi, on est vraiment dans l'ouverture à tous les étudiants, à tous les personnels et à tous les Lyonnais, aglo-Lyonnais, voire les gens de passage. Ils peuvent tout à fait venir dans ce pôle universitaire lyonnais.
Effectivement, tous les gens sont invités, tous les publics sont invités à venir participer, assister aux débats, aux échanges, venir voir les ateliers qui sont proposés pendant ces journées du numérique. C'est effectivement ouvert à tous les publics, à notre communauté universitaire également. Et l'idée était vraiment de pouvoir créer un temps fédérateur et de faire se croiser l'ensemble des publics et de faire se croiser les disciplines également sur cette thématique transversale qu'est le numérique.
Et alors, cette thématique transversale, justement, comment c'est venu cette idée ? Vous avez eu une idée qui vous est venue un matin et puis elle est concrétisée aujourd'hui jusqu'à jeudi ou alors c'est vraiment quelque chose qui est une attente qui était vraiment là depuis un moment.
Alors vous avez utilisé tout à l'heure deux mots qui sont je pense assez importants et qui effectivement vont irriguer aussi ces journées, les mots libre et gratuit. C'est vrai que les bibliothèques universitaires, ce sont des lieux de culture et une des choses qui nous tient particulièrement à cœur, c'est que ce soit des lieux d'échange et de transmission de savoir de manière libre et gratuite. À l'intérieur de ça, on met en place effectivement une politique culturelle et dans cette politique culturelle, on a souhaité mettre l'accent depuis déjà 3 ans sur la culture numérique. Donc on a mis en place un certain nombre de rendez-vous. Et là, effectivement, on a mis en place ce rendez-vous qui est un petit peu plus étoffé que ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant et qui propose un panel, un ensemble d'activités telles qu'on souhaitait en mettre en place de manière un peu plus éclatée, j'allais dire. Mais là, ce qui est intéressant, c'est le caractère ramassé aussi de l'événement. C'est-à-dire qu'on peut goûter un petit peu à tous les types d'activités en 3 jours.
Voilà, c'était l'idée, effectivement, d'être un petit peu dans la continuité de ce que vous avez déjà fait, mais voilà, d'avoir un peu de sacraliser dans une semaine, une petite semaine, 3 jours, toutes ces choses que vous avez déjà faites et que, évidemment, j'en doute pas, vous allez continuer à faire.
Et comme le disait Nathalie, vraiment, ça fait partie des missions des bibliothèques universitaires que de faire de la médiation numérique. Mais pour en venir plus spécifiquement à ces journées du numérique là que nous y avons montées, au-delà du souhait que nous y avions de créer de l'échange et de l'apprentissage sur les cultures numériques, de débattre des enjeux et des usages du numérique, ce qui vraiment nous a porté et animé pendant le montage de cet événement, je le répète encore, mais c'était vraiment de créer un temps fédérateur sur ce campus, parce que c'est un campus qui est très très riche en fait. Il y a 3 composantes, l'IUT, le Centre Universitaire Départemental, l'ESPE. Donc il y a des disciplines, des filières très variées, pluridisciplinaires, et c'était vraiment l'occasion pour nous de faire se croiser toutes ces disciplines et de faire sortir un petit peu des différents bâtiments du campus, toutes ces filières-là, et de se faire se croiser tout le monde ici pour échanger autour du numérique. C'est vraiment ce qui nous a porté dans le montage de cet événement.
Et alors justement, cet événement, comment il est structuré? Comment vous avez conçu ces journées du numérique? Vous avez plusieurs activités, plusieurs types d'activités. Il y a des conférences, il y a des débats, on va en parler dans quelques minutes. Il y a aussi la présentation d'un média, puisqu'il y a aussi un média par le pôle universitaire lyonnais. Comment vous avez organisé toutes ces choses-là? Vous avez tout inscrit sur une feuille et puis vous vous êtes dit il faut que ça rentre ou c'est plus réfléchi que ça?
Au départ, en fait, on voulait organiser un Ripper Café informatique. C'est vraiment notre idée de départ. Et on souhaitait proposer une nouvelle édition de la Copy Party avec Olivier Hertchette qui va venir en parler tout à l'heure.
Exact.
Donc on est parti vraiment de ces deux souhaits que nous avions. Et puis on a commencé à en parler ici, sur le campus, dans les BU, etc. Et on s'est dit qu'on avait vraiment envie de faire quelque chose d'un petit peu plus étoffé. Et on a monté le programme progressivement en fonction des échanges qu'on a pu avoir avec les uns et les autres, des contacts qu'on a pris. Et on s'est vite rendu compte qu'on avait moyen de monter un événement varié, enfin avec une programmation très complète, et proposer à la fois des temps de débat, des ateliers, des temps ludiques, des démonstrations de matériel, etc., en associant des acteurs locaux également. On a la Bouest qui est là, on a la Loco Numérique aussi qui sera là jeudi. Donc ça s'est monté progressivement et pour au final arriver à cette programmation qui est très complète en fait.
Et alors justement, parlons de cette programmation. Au moment où nous sommes diffusés sur Graffiti, nous sommes le soir. Mais dès ce soir, en fait, on va un petit peu faire l'impasse sur ce qui se passe dans l'après-midi aujourd'hui, mardi. Mais pour ce soir, vous commencez la programmation, enfin vous poursuivez cette programmation avec une soirée débat qui va s'intéresser évidemment au numérique.
Absolument. Donc à partir de 18h30, soirée débat intitulée « Objets connectés et liberté numérique » qui se déroule du coup dans l'amphithéâtre face à la bibliothèque universitaire du pôle de la Courtaisière avec 3 enseignants-chercheurs du campus. Guillaume Andrieux, qui est donc enseignant en électronique et télécommunication, qui abordera les aspects plutôt de définition, qu'est-ce qu'un objet connecté.
Oui.
François Rousseau, qui est enseignant chercheur en droit privé et sciences criminelles, qui abordera les aspects juridiques liés à la responsabilité aux libertés numériques. Et Olivier Hertchette, donc enseignant en sciences de l'information et de la communication, qui abordera plutôt les aspects sociétaux liés à ces objets connectés et aux libertés numériques. Donc un beau débat ce soir, avec un temps de présentation de chacun des 3 intervenants et puis suivi d'échanges avec le public présent.
Et on rappelle évidemment que ce public présent, il est libre et ouvert et toute personne intéressée par le numérique, et je pense qu'il y en a beaucoup, eh bien peuvent aller vous voir, donc aller nous voir à l'amphithéâtre donc pour cette soirée débat ce soir à 18h30. Donc ça, c'est pour la journée d'aujourd'hui mardi, et puis demain, on aura pas mal de choses, et là, on a commencé à parler de cette soirée débat, mais donc qui est par essence vraiment définie dans le temps et dans l'espace, mais il y aura tout plein d'activités et d'ateliers qui seront proposés proposé dès demain, mercredi et puis jeudi aussi.
Tout à fait, on continue à dérouler le programme. Donc demain, il y a un autre débat, demain midi, autour du recyclage et de l'obsolescence programmée. Débat qui permettra de lancer le Repair Café informatique de l'après-midi. Voilà, il permettra de se questionner sur ce recyclage. Et sur l'obsolescence programmée, du coup.
Oui, ça, on va en parler en détail tout à l'heure. Avec Olivier Hatched.
Et demain soir, on a effectivement une soirée un petit peu particulière, puisque on a à la fois une soirée jeu, donc avec un collectif de gamers lyonnais qui viennent avec leur matériel et nous parler de l'univers des jeux vidéo en réseau. Donc, ils seront 7 ou 8 présents ici. Donc, tous ceux qui souhaitent venir découvrir, s'initier, poser des questions sur cet univers, sont les bienvenus, effectivement, donc à partir de 20h demain. Et en même temps, hein, parallèlement à cette soirée jeu, on a la chance d'avoir le Lab West qui délocalise du coup son Fab Lab du mercredi soir à la bibliothèque universitaire. Donc je le laisse en parler tout à l'heure puisqu'Emmanuel Faure viendra en parler. Donc
absolument.
Voilà, donc demain soir, ça va être assez riche et foisonnant. Voilà.
Et on va pouvoir être simplement spectateur si on le souhaite, mais on va aussi surtout pouvoir, là aussi pareil, si on le souhaite, être acteur et vraiment agir par rapport au numérique et par rapport à soi aussi, enfin faire le croisement entre soi et le numérique.
Oui, puis on va pouvoir, les gens pourront effectivement manipuler le matériel, découvrir tout un tas d'outils. Donc voilà, ça pourrait être très intéressant. Et puis jeudi, si on continue sur la journée de jeudi, peut-être que Nathalie, tu peux parler du débat prévu en clôture de nos journées.
Oui, ce sera à 18h30.
Oui, on accueillera un certain nombre de personnes effectivement rassemblées autour de Romain Ledroit. Romain Ledroit qui est journaliste et puis qui anime... depuis 2 ans maintenant, des ateliers que les bibliothèques universitaires organisent avec la direction de la culture et des initiatives de l'Université de Nantes et qui se sont assez rapidement tournés à l'initiative des participants aux ateliers vers la question des données personnelles, de leur protection, etc. Alors la table ronde, le débat de jeudi portera plus spécifiquement sur les hackers, les journalistes, les lanceurs d'alerte, avec une volonté aussi un petit peu d'expliquer, de dédiaboliser un petit peu certaines réalités hein, pour le grand public, et puis de faire état aussi de toutes les solutions qui sont les solutions libres, gratuites. C'est vrai que cette année, l'atelier a porté beaucoup sur un collectif qui s'appelle Chaton, collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres, solidaires.
Voilà, c'est ce que signifie le mot Chaton.
Voilà, enfin, c'est ça.
En l'occurrence, l'acronyme.
Voilà, et donc c'est aussi un peu l'occasion, ce temps d'échange et de débat, de revenir sur les échanges aussi qu'il y a pu y avoir effectivement depuis 2 ans. Donc on creuse un peu le sillon de la question du libre et de la question des alternatives finalement aux grandes entreprises qui pourraient effectivement cacher un peu la forêt d'initiatives libres et solidaires.
Oui, là on parle clairement des plateformes qui effectivement sont tout pour être attirantes, mais il faut peut-être réfléchir un petit peu plus loin, et justement on aura l'occasion de réfléchir pas seulement à ce moment-là, mais aussi à ce moment-là, donc jeudi prochain, donc dans 2 jours, à 18h30 pour cette soirée débat de clôture. Et puis il y aura aussi des projections un petit peu hein, dans la même ligne, hein, juste avant à 16h30, la projection du film Nothing to Hide. Si vous voulez en parler.
Non, mais c'était juste l'occasion. Avant le débat, c'était très cohérent avec le débat qui a lieu, la table ronde qui a lieu après. On s'est dit qu'on pouvait effectivement faire une projection de ce film-là juste avant le débat. Voilà, c'est un film documentaire hein, qui s'intéresse aux effets de la surveillance de masse sur les individus et la société. Donc voilà, il y a quelque chose dont je voulais parler quand même, que vous avez un petit peu abordé tout à l'heure, c'est la présentation de #-info, le nouveau webzine lyonnais.
Exactement. Un nouveau média par l'IUT, ou plus précisément, mais ça je vais vous laisser en parler.
Ben, je ne suis pas spécialiste de la question, peut-être que les étudiantes ici d'Infocom connaissent un petit peu mieux, mais effectivement c'est un nouveau média créé depuis peu par le département Infocom, porté par des étudiants et puis par 2 enseignants, Francis Misio et François Poupet, donc ils seront là demain, mercredi du coup à partir de 13h30 et qui viendront un peu présenter à qui le souhaite ce nouveau média qui est à la fois qui est un média pour valoriser effectivement les événements qui se passent sur le campus, mais qui est bien plus large, hein, puisque c'est vraiment un nouveau média de La Roche-sur-Yon, donc qui peut aborder toute thématique qui peut intéresser les Yonnais.
Eh bien, on aura rendez-vous donc demain à 13h30 pour la présentation de ce #info. Et puis évidemment, tout le programme de ces soirées, ces journées, que dis-je, ces soirées, ces journées, mardi, aujourd'hui, jeudi, et puis évidemment mercredi entre les deux, c'est évidemment à retrouver notamment sur le site du pôle universitaire Yonnais. Merci beaucoup, Nathalie Rondeau, responsable culture des bibliothèques universitaires.
Merci à vous.
Et puis merci également à Sandrine Laurent, responsable de la BU du pôle universitaire Yonnais.
Merci.
Et on va poursuivre cette émission sur Graffiti eh bien avec la suite de la programmation. Et en l'occurrence, je rejoins Mathilda. Bonjour Mathilda.
Bonjour.
Alors avec toi, eh bien on va retrouver un nouvel invité que je vais te laisser nous présenter.
Bah oui, tout à fait. Donc en fait, maintenant, on va rejoindre Emmanuel Faure.
Bonjour.
Donc vous êtes le créateur et le directeur du Fab Lab Lab West, si je ne me trompe pas.
Alors, il y a une petite nuance sur ça. Je ne suis pas le seul créateur, d'accord, parce que finalement, on est 7 personnes à avoir remonté, à avoir monté un Fab Lab sur La Roche-sur-Yon, donc le Lab West. Hein. Et je ne suis pas non plus le directeur, puisque on est, on va dire, sous un format collège solidaire. Donc, on est 7 personnes à prendre des décisions. Il n'y a pas vraiment de directeur en tant que tel.
D'accord.
Mais aujourd'hui, je vais les représenter.
Donc le représentant du Lab West, donc qui s'est installé à la BU pour cette semaine, cette journée du numérique.
Tout à fait. Alors à l'invitation donc de la bibliothèque universitaire, on a délocalisé notre Fab Lab. Je vais peut-être revenir sur ce qu'est un Fab Lab.
Ben oui, c'était une de mes questions, c'était mais allez-y, il n'y a pas de problème.
Alors, donc je vais continuer. On a délocalisé notre Fab Lab, ça veut dire qu'on a amené certaines machines qui sont utilisées et qu'on présente dans le lieu qui s'appelle le Fab Lab, Lab West, qui est basé à la Loco Numérique, près de la gare à La Roche-sur-Yon. Et nous avons ramené différentes machines, notamment des imprimantes 3D, une brodeuse numérique, une machine capable de découper des matériaux souples qu'on appelle une découpe vinyle et pas mal d'éléments réalisés avec de l'électronique et de l'impression 3D pour présenter justement ce qu'est le Lab West.
D'accord. Et du coup, on va parler du Lab West donc principalement dans cette interview, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce Fab Lab ?
À l'origine, il y avait sur La Roche-sur-Yon un autre Fab Lab qui s'appelait ZBIS et qui a déménagé sur Montaigu. Il y a de ça 2 ans. J'étais, et les membres fondateurs aussi de l'association étaient aussi utilisateurs du lieu, de ce Fab Lab. Quand il a déménagé donc sur Montaigu, on s'est retrouvé un petit peu orphelin, dans le sens où utiliser des machines, enfin faire une 20aine de kilomètres pour simplement des fois lancer une impression 3D, c'était un petit peu, voilà, ça nous semblait un petit peu compliqué. Il y avait aussi une population d'adolescents qui étaient aussi utilisateurs du lieu et qui n'avaient pas forcément les moyens de se déplacer tout le temps et régulièrement en fait sur Montaigu. D'où l'idée de remonter complètement une structure, un Fab Lab, sur La Roche-sur-Yon. Donc ça, c'est l'origine du projet. On a commencé à creuser un petit peu le sujet et il y a eu un engouement assez très intéressant pour nous de la part de l'agglomération et de la Loco Numérique qui trouvait qu'avoir un Fab Lab au sein de la Loco Numérique, ça faisait sens puisqu'on pouvait imaginer pas mal de choses autour de ce Fab Lab et des entreprises qui sont accueillies aujourd'hui à la Loco.
D'accord. Et du coup, depuis quand dure cette aventure du Lab West ?
Eh bien, ça va faire 2 ans que l'idée a germé. Ça fait 1 an et demi que l'association est en place et que nous avons des locaux et des machines en fait à La Roche-sur-Yon.
D'accord. Et vous avez un peu abordé la question avant, mais pourquoi donc choisir La Roche-sur-Yon en fait ?
Très bonne question. parce qu'on est simplement... moi, je suis de La Roche-sur-Yon. Enfin... Les membres utilisateurs, les membres fondateurs, une grande partie gravitent autour de l'agglomération yonnaise. Donc, il semblait intéressant de rester sur La Roche-sur-Yon. Et ça a été confirmé justement par le besoin de l'agglomération lyonnaise d'avoir un Fab Lab au sein de ce pôle en fait, qui est la loco numérique. Donc plusieurs facteurs ont fait que La Roche-sur-Yon semblait très intéressant donc, pour s'installer ici.
D'accord. Et donc une demande en fait de la part de l'organisation lyonnaise.
Alors une demande, c'est surtout un complément en fait. On était d'accord. Finalement d'accord. On avait envie de s'installer sur La Roche-sur-Yon. Eux avaient une envie aussi d'avoir un Fab Lab sur l'agglomération. Donc si tout le monde est plutôt à les mêmes idées, donc il semblait pertinent de rester sur La Roche-sur-Yon.
Très bien. Et sur votre site, on peut voir que vous avez un calendrier assez bien rempli. Et quels sont les prochains rendez-vous à ne pas manquer au Fab Lab ?
En termes de calendrier, alors dans le calendrier, ce que vous citez, c'est peut-être les ateliers.
Sans doute, oui. Oui, c'est dans votre première page, en fait, sur votre site.
Alors, juste pour resituer, on est ouvert déjà deux fois par semaine, les mercredis soirs et les vendredis soirs de 19h à 22h. Et un mercredi sur deux, on anime un atelier autour d'une technologie, autour de l'utilisation d'une machine, autour d'un logiciel. Alors un atelier, ce qu'on appelle un atelier, c'est pendant 2 heures ou 2 heures et demie, un animateur est là et prend en charge un groupe pour expliquer justement une technologie, l'utilisation d'une machine ou l'utilisation d'un logiciel. Et en effet, le calendrier est assez rempli puisque tous les 15 jours, on a des ateliers programmés. Et sinon, deux fois par semaine, on a un temps d'ouverture du lieu. Alors le temps d'ouverture, c'est l'accueil du public ou des membres en fait, qui utilisent le Fab Lab.
D'accord.
Ce qui explique qu'on a un calendrier rempli au moins deux dates par semaine.
Et donc, comment que faut-il faire et comment peut-on adhérer à ce Fab Lab ?
Le Fab Lab, c'est une association 1901, d'accord. Donc il y a une simple cotisation à prendre pour ensuite utiliser en fait, le matériel qui est mis à disposition en fait, dans le lieu.
D'accord.
C'est une cotisation annuelle, on est à 20 euros pour les moins de 25 ans, on est à 40 euros pour les adultes, mm-hmm. Et c'est une adhésion qui court pour toute une année.
D'accord. Oui.
Oui, en fait, est-ce qu'on peut... Je vais peut-être reparler de ce que c'est le Fab Lab.
Allez-y.
Ou c'était peut-être la...
Oui, c'était
la prochaine question, excusez-moi.
Il n'y a pas de problème, allez-y. Qu'est-ce que le Fab Lab ?
Alors, le Fab Lab, justement, c'est un lieu où est mis à disposition des machines de fabrication numérique. Typiquement, c'est un lieu où on peut fabriquer à peu près n'importe quoi.
Fait rêver.
Ou presque tout. Quand je dis machine, ça va être par exemple des imprimantes 3D, donc qui sont mises à disposition, des machines capables de faire de la découpe, alors de la découpe dans des matériaux souples, tels que des adhésifs, du papier, du carton, du tissu, du cuir. On va pouvoir aussi découper des matériaux durs comme du bois, du plexi, certains aluminiums, parce qu'on a différentes machines qui sont capables de faire cela. On a aussi une brodeuse numérique qui est capable de faire de la broderie sur n'importe quel vêtement ou pièce de tissu. On a un ensemble, on met aussi à disposition beaucoup de cartes électroniques qu'on appelle Arduino ou Raspberry Pi, sur lesquelles on va pouvoir faire du prototypage ou créer des objets connectés ou des petites applications électroniques ou simplement découvrir l'électronique. C'est l'ensemble, voilà, pour aujourd'hui l'ensemble des machines que l'on met à disposition. On a dans les cartons d'installer prochainement une autre machine qui souvent fait rêver. C'est une machine qui est capable de découper au laser et qui va pouvoir là aussi découper du bois, du tissu et des matériaux un peu étranges, mais à l'aide du laser.
Et donc ces machines, on a la chance en fait de les avoir juste derrière nous. Donc à la bibliothèque universitaire pour les journées du numérique.
Voilà, c'est ça.
Et donc j'imagine que vous avez aussi vu des créations de certaines personnes qui sont venues au Fab Lab en ces 2 ans, non ?
Oui, il y a pas mal de créations qui ont été réalisées. Je pense notamment, alors il y a eu une console de jeu un peu vintage qui a été réalisée pendant les sessions au Fab Lab. Il y a eu un photomaton réalisé aussi pendant pendant les sessions de Fab Lab. On a en ce moment un autre projet qui est un trieur de M&M's, qui est un projet alors qui peut faire sourire, mais attention, c'est très sérieux, oui. Puisque tout le monde sait que les M&M's n'ont pas forcément le même goût selon leur couleur. Ça, c'est la légende qui le dit. Mais c'est un projet alors qui peut faire sourire, mais en fait qui permet de regrouper pas mal de technologies. Et les personnes qui se sont attelées à ce projet, justement, c'était leur challenge. C'était d'utiliser autant de l'impression 3D que de la programmation, que d'électronique, et de regrouper tous ces savoirs justement autour d'un projet, un projet commun. On a aussi, un autre projet qui est resté, qui est un petit peu en stand-by en ce moment par manque de temps, mais on souhaitait cette année participer à la Coupe de France de robotique.
D'accord.
Et en ce sens, on a un robot qui a été fabriqué pour cela. Le projet, c'est un projet très gourmand en temps, donc il a été mis un petit peu en attente, celui-ci. Mais je n'espère pas qu'il soit repris pour l'année prochaine, la session prochaine de la Coupe de France de robotique.
Donc rendez-vous l'année prochaine à la Coupe de France de robotique.
C'est
ça. Je voulais aussi vous demander, les novices aussi peuvent accéder au Lab West, en fait, à ce Fab Lab ?
Tout à fait, au contraire même. Le Fab Lab est fait de... Enfin, on a une approche justement faite pour cela. C'est-à-dire que si demain vous voulez découvrir l'impression 3D et faire de l'impression 3D, eh bien on va vous accompagner. Vous venez déjà voir le lieu, voir comment ça se passe. Mais typiquement sur l'impression 3D, ben on va vous dire, faites peut-être un atelier de 2 heures. On va vous expliquer comment ça fonctionne. Et à la suite de ces 2 heures, de cet atelier, vous allez être plus autonome pour justement faire de l'impression 3D. Vous aurez en fait les clés, on vous aura donné les clés pour... justement être autonome sur l'impression 3D. Et c'est valable aussi sur toutes les autres machines du Fab Lab. Pendant un atelier, on vous fait monter en compétences ou on vous explique comment vous en servir. Et ensuite, vous pouvez accéder sans problème pendant les temps d'ouverture pour utiliser ces machines.
Donc maintenant, en fait, au bout de ces 2 ans, j'imagine que vous avez vu arriver pas mal de novices qui sont maintenant des personnes qui savent utiliser.
Oui.
Et donc une fois en fait qu'on a ces capacités-là, c'est vraiment ouvert et on peut créer à peu près tout ce qu'on veut.
Voilà, si on est autonome sur une machine, eh bien on peut venir l'utiliser pendant les temps d'ouverture, il n'y a aucun problème.
D'accord.
Donc et on passe de novice à utilisateur et après, au fur et à mesure de l'utilisation, on va être un peu plus aguerri et il y a toujours... Quoi qu'il arrive, il y a toujours quelqu'un dans le Fab Lab pour assister s'il y a un problème.
D'accord. Et du coup, en 3 mots, comment vous pourrez définir Lab West en 3 mots ?
Très compliqué, ça. Lieu de création.
D'accord. Lieu de création.
lieu de création.
Et du coup, je voulais aussi vous demander, un peu pour achever cette interview... Comment avez-vous pris contact pour les journées du numérique avec la bibliothèque universitaire ?
Alors, c'est directement la bibliothèque universitaire qui a fait appel, qui nous a posé la question si ça nous intéressait de justement participer à ces journées du numérique. Et c'était très pertinent parce que tout à l'heure, j'ai entendu parler justement de cette culture libre où on partage en fait des savoirs et finalement. Le Fab Lab s'inscrit vraiment dans cela, c'est-à-dire que les utilisateurs du Fab Lab ou les personnes qui sont membres de l'association ont des savoirs et sont là pour les partager. Et en tant que tel, à chaque fois qu'on vient utiliser le lieu, eh bien, on est potentiellement aussi quelqu'un qui va pouvoir partager ses connaissances. Si quelqu'un est coincé sur un de ses projets personnels, par exemple, il y aura sûrement quelqu'un qui a peut-être rencontré le problème et qui va pouvoir l'aider à le dépanner.
D'accord. Et on l'a dit précédemment, mais vous serez présent demain pour nous présenter tout cela.
Oui.
Et donc il y aura moyen d'expérimenter, j'imagine.
Alors on va être présent aujourd'hui, mardi pendant la midi, on va présenter l'association. Demain soir, on va être aussi présent, donc mercredi, où on va carrément... déporter notre temps d'ouverture dans notre lieu. En fait, on amène tout ici. D'accord. Et donc les utilisateurs du Fab Lab habituel sont invités à venir utiliser les machines comme habituellement ici au sein de la BU. Et en fait, ça va être l'occasion de présenter ce que l'on fait, ce que l'on peut faire, et de vous montrer justement les machines et les savoirs.
Bah, ici, de pouvoir échanger en fait, avec des personnes qui ont eu aussi cette envie de s'investir dans le Fab Lab et dans la Ouest.
Ouais, tout à fait. Et on sera aussi présent jeudi midi dans la continuité justement pour présenter encore l'association.
D'accord.
Parfait. Bah, on sait tout. Moi, j'ai appris plein de choses. Merci Mathilda.
Bah, merci à vous.
Merci, et merci Emmanuel Faure aussi. Et puis rendez-vous alors au Lab Ouest dans les jours à venir. Mais pour l'instant, rendez-vous à la bibliothèque universitaire pour ces journées du numérique. Et puis, quant à nous sur Graffiti Urban Radio, le réseau urbain spécial Journée du numérique, justement, va se poursuivre. Et j'emploie le futur, mais on peut même carrément parler au présent, puisqu'on va maintenant recevoir Olivier Herchet. Bonjour, Olivier.
Bonjour.
Alors, Olivier Herchet, on va parler avec vous déjà, on va savoir qui vous êtes, parce que toutes les personnes de l'université vous connaissent, évidemment. Mais comme vous avez plusieurs casquettes à l'université et ailleurs, j'aimerais bien qu'on fasse un peu connaissance avec vous. Pour rappel.
D'accord. Donc, Olivier Herchet, moi, je suis prof ici. Je suis enseignant-chercheur en sciences de l'info et de la communication, donc à l'IUT, dans le département information et communication. Je m'intéresse, ou je travaille en tout cas, sur tout ce qui a trait aux questions autour de la culture numérique, de la manière dont fonctionnent les grandes plateformes, les grands acteurs, et puis les dangers plus ou moins grands que ça fait peser sur un certain nombre de libertés individuelles et collectives. Et puis voilà. Puis j'essaye de raconter tout ça sur un petit blog que j'ai depuis que je suis arrivé ici, depuis 13 ans, qui s'appelle Affordance Info, et où je publie assez régulièrement des petites chroniques sur mon métier, c'est-à-dire ce sur quoi je travaille, en essayant de rendre ça le plus accessible possible pour des gens que ça pourrait intéresser.
Exactement. Et alors, vous êtes également présent lors de ces journées du numérique pour différents ateliers. Alors, il n'y aura pas que ça, mais on va d'abord s'intéresser aux ateliers. Les conférences, je dévoile un petit peu, on va en parler évidemment dans quelques minutes. Pour l'instant, parlons copy party. Vous êtes spécialiste en la copy party. Qu'est-ce que c'est d'abord une copy party?
Alors, une copy party, c'était une idée.
Il y a un concept précis. Hein.
Oui, il y a un concept. C'est très, 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 très cadré. En fait, on avait des camarades bibliothécaires qui, il y a longtemps, en 2012, observaient que les usagers dans leur bibliothèque se cachaient pour faire des trucs qu'ils avaient parfaitement le droit de faire, c'est-à-dire pour des étudiants qui en cachette sous le manteau photographiaient avec leur téléphone portable des extraits de bouquins.
Ouais.
Alors qu'en fait, c'est ce qu'on appelle le droit à la copie privée. On a le droit de faire ça. Il y a un certain nombre de règles à respecter, mais elles ne sont pas très compliquées. En plus, on paye déjà pour ça, parce que chaque fois qu'on achète CD vierge, un ordinateur, un disque dur, une clé USB, il y a une partie qui revient à des organismes qui sont ensuite reversés aux auteurs.
Et donc, une redevance.
Voilà, une redevance. Et donc, on s'est dit, c'est quand même ahurissant qu'à une époque où en plus il y avait un discours très, très, très angoissant, très anxiogène sur les questions de copie, qu'on en soit arrivé à ce que les gens ne soient même plus capables d'appliquer ce qui est leur droit. Donc on a dit on va créer ce petit événement, c'est avec Lionel Morel et Sylvère Mercier qui ont eu l'idée, donc il faut leur rendre la paternité de l'idée, et puis avec la bonne volonté et le dynamisme ici de Sandrine Laurence et de l'équipe de la BU qui... C'était pas évident hein, de dire on y va, on va organiser en bibliothèque un événement où les usagers vont rentrer, avoir le droit de copier absolument tout et n'importe quoi. Voilà,
c'était... En respectant quand même les règles, évidemment, de la copie privée. Oui.
Voilà, en respectant les règles.
Me voilà rassuré.
Il faut venir avec son propre matériel de copie. Il faut évidemment que ce soit pour un usage privé. Hein. Il ne s'agit pas de rebalancer ça en ligne sur des réseaux dont je tairai le nom.
Oui. C'est important à signaler, même si c'est évident, mais voilà, il faut mieux préciser les choses.
Voilà, c'est ça. Et il faut ne pas briser de mesures techniques de protection. Donc, s'il y a des contenus qui sont protégés avec tout un tas de DRM, on n'a pas le droit de les casser pour réaliser cette copie. Mais donc la copie partie à l'époque, c'était ça. C'était sensibiliser les gens à leurs droits, sortir de ce discours anxiogène sur la copie et le droit d'auteur, montrer que copier des œuvres, c'est aussi faire vivre des œuvres, partager des idées, et que la plupart du temps, les usages autour de la copie sont assez raisonnables et pas du tout dans les caricatures qu'on en entend souvent parler quand ça fait la une de l'actualité. Voilà.
Ouais. Et alors ça... Donc, vous allez être présent pour ce sont des ateliers copy party ou ce sont des stands?
Oui, il va y avoir. Alors, il y a une table qui est derrière moi, là. Où,
dans la BU.
Dans la BU, où sont disposés donc, un certain nombre d'ouvrages, de DVD. Puisque une des règles de la copy party, c'est qu'on a le droit de copier quoi que ce soit à partir du moment où ces documents proviennent d'une source légale.
Oui.
Donc, en bibliothèque, c'est bien connu, il n'y a que des documents qui arrivent avec des sources légales. Donc, il y a des DVD, il y a des ouvrages. Et puis il y a un petit poste aussi informatique sur lequel On a mis des sites qui sont parfaitement accessibles et connus. Sur Gallica, par exemple, la Bibliothèque nationale de France propose tout un tas de bouquins au format e-pub qui sont dans le domaine public. On peut copier et utiliser librement des images.
Oui, voilà. Ça fourmille de documents de tous les âges, voilà. De tous les intérêts, voilà. De tous les.
Mais l'idée, c'était aussi de dire, voilà, vous avez des bouquins, allez-y, prenez vos téléphones portables, faites des photos, des passages qui vous intéressent, et puis voilà, utilisez ça dans le cadre qui est... parfaitement licite et légal qui est celui de la copie privée.
Et alors là, au moment où l'on parle, il est bientôt 17h30, on est sur Graffiti Urban Radio, émission spéciale du réseau urbain pour ces journées du numérique. Dès ce soir, est-ce qu'il est accessible ou c'est peut-être un petit peu tard à 17h30 pour venir à la BU pour cette activité copie partie?
Non, la copie partie, c'est un événement, enfin c'est un stand qui va durer sur les 3 jours des journées du numérique, donc on peut passer absolument n'importe quand dans la bibliothèque. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la copie partie, en fait, pendant toute votre vie, dans un mois, dans un an, dans 2 ans, vous allez dans n'importe quelle bibliothèque, médiathèque à côté de chez vous, avec votre propre matériel de copie, et vous avez le droit de prendre en photo, de graver tous les documents qui sont dans les bibliothèques et dans les médiathèques.
Voilà. Tant que c'est pour un usage privé.
Pour un usage privé.
Tout fonctionne parfaitement. Très bien. Donc ça, c'est donc à retrouver ces prochaines heures, ces prochains jours. Mmh. Mais il y a d'autres choses qui sont proposées, notamment un Ripper Café.
Oui.
On aime bien les anglicismes, j'ai remarqué.
Oui, c'est... Oui.
Vous me direz que café n'est plus vraiment français.
C'est ça, voilà. Un café de réparation, un atelier de bidouillage et de bricolage. Ouais, l'idée, c'est de... Alors, les Ripper Café, ça existe depuis assez longtemps. Il y a même un mouvement associatif qui porte ces initiatives. L'idée, c'est de lutter effectivement contre la surconsommation et l'obsolescence programmée et de permettre aux usagers, avec des spécialistes qui seront là, de pouvoir se réapproprier, de réparer parfois eux-mêmes des petites pannes pour améliorer, augmenter la durée de vie d'appareils qui sont souvent programmés pour tomber en panne au bout d'un certain temps. Donc cet après-midi, ce sera un Ripper Café informatique. Donc on pourra venir avec disque dur, clé USB, ordinateur, téléphone. Il y aura plein de gens qui travaillent à l'université et qui sont des spécialistes, des informaticiens qui seront là pour aider les gens, leur filer des pistes, des tuyaux. Et puis il y a, alors ce ne sera pas le cas ici, mais les Ripper Café, il y en a d'autres où on peut venir avec des appareils électroménagers. Voilà. Nous, ce sera centré uniquement sur l'informatique.
Évidemment, journée du numérique oblige.
Voilà.
Très bien. Et donc là, pareil, je le disais tout à l'heure en préambule, c'est ouvert évidemment aux étudiants, c'est ouvert au personnel de l'IUT et du pôle universitaire lyonnais, j'y arrive, pôle universitaire lyonnais, mais c'est évidemment ouvert à toute personne qui est intéressée et qui veut se renseigner, voir qui a un ordinateur qui, une touche qui a un petit problème, une carte son qui,
bug.
Voilà, aucun problème. Et ça se situe donc au niveau de la BU.
Voilà, ce sera dans la bibliothèque, dans une salle de travail là, qui sera réservé à ça, et n'importe qui effectivement peut passer, il n'y a pas besoin d'être ni étudiant ni enseignant à l'université, il suffit d'habiter à La Roche ou même ailleurs d'ailleurs, et on vient, et puis on rentre librement, et puis on aura des gens qui seront là pour répondre aux questions qu'on se pose sur ces petits dysfonctionnements matériels.
Voilà, toute personne de tout âge et de toutes origines est là, bienvenue évidemment. Alors vous nous parliez d'obsolescence programmée, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur cette chose dont on entend de plus en plus parler. Qu'est-ce que c'est l'obsolescence programmée?
Alors l'obsolescence programmée, c'est un concept assez ancien qui est l'idée que, en fait, pour assurer ou pour optimiser les ventes d'un certain nombre de matériel, on va s'arranger, faire en sorte à l'échelle des mécanismes de fabrication pour qu'ils tombent en panne, qu'ils s'arrêtent de fonctionner ou qu'ils présentent des dysfonctionnements suffisamment importants au bout d'un certain temps pour que les gens soient obligés de racheter.
Généralement, c'est juste après la garantie, la fin
de la
garantie.
En général, comme la vie est bien faite et le marketing aussi, ça tombe en général juste après la fin de la garantie. Ouais, c'est comme ça, ça va bien. Et voilà, donc cette obsolescence programmée, ça fait longtemps que ça existe. Il y a plein d'associations de consommateurs qui depuis longtemps dénoncent ce phénomène-là. Il y a même parfois des réponses juridiques dans certains cas qui peuvent être apportées quand on pousse le bouchon un petit peu trop loin. Et puis on observe qu'à l'échelle du numérique aussi, c'est un phénomène qui s'étend, qui change aussi un petit peu de nature et de forme, et qui pousse toujours pareil à des formes de surconsommation qui sont un petit peu pénibles. Donc là, l'idée, c'est avec une collègue qui est spécialiste de ça en génie biologique, qui travaille beaucoup là-dessus, Virginie, on va essayer d'expliquer ce que c'est, de réfléchir et puis de montrer aussi les initiatives qui permettent de sortir un petit peu de ces logiques-là.
Oui, parce qu'on parle beaucoup de matériel, mais cette obsolescence programmée, elle peut aussi tout à fait être numérique.
Oui, il y a plein de choses. On a inventé des trucs assez bizarres qu'on appelle des DRM, des systèmes de gestion des droits, qui par exemple sur un livre numérique vont vous coller ce qu'on appelle une option de chronodégradabilité, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, votre fichier va se détruire comme dans les vieux Missions Impossibles. D'accord. Là, le message s'autodétruit.
C'est ça.
On a ça aussi, le dernier truc qui est assez énervant, c'est on a ça sur des cartouches d'imprimante où HP a mis en place un DRM de chronodégradabilité qui en gros, même si la cartouche est totalement pleine, au bout d'un certain temps, va vous dire vous avez passé la date limite d'utilisation.
Ouais. Date de péremption.
Voilà, date de péremption.
Bon, eh ben, ça, on va tout savoir lors de ces ateliers, mais pas seulement, puisque je le disais, vous êtes aussi présent pour des conférences, pour des débats, et on va parler, alors ça sera demain à 12h15, si je ne me trompe pas, vous confirmez, une table ronde sur ce recyclage et sur l'obsolescence programmée, une sorte de synthèse un petit peu des sujets qu'on vient d'évoquer, réagir au matériel qui s'use de manière logique et puis aussi parfois de manière illogique.
Voilà, c'est ça, donc on sera deux, je serai avec ma collègue Virginie de Génie Biologique, et puis voilà, on va un petit peu présenter l'état de l'art de l'obsolescence programmée aujourd'hui, et puis on va surtout essayer de répondre aux questions.
C'est ça, surtout l'intérêt aussi, l'intérêt aussi, c'est que si vous avez des questions, auditeurs de Graffiti Urban Radio, vous voulez avoir des réponses, et bien justement, Olivier Herched est là, pas seulement lui, mais lui aussi.
Ouais, on sera là, on sera plusieurs.
Très bien.
Et on essaiera de répondre effectivement aux questions que les gens se posent là-dessus. Ouais.
Alors, il y aura aussi une soirée, cette fois c'est ce soir, hein, 18h30, dans quasiment une heure, une soirée débat objets connectés et liberté numérique. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette soirée débat ?
Oui, donc là on sera...
À laquelle vous serez présent, évidemment.
Oui, on sera trois à intervenir. Donc là, l'idée, c'était effectivement, c'est un peu l'esprit aussi de ces journées du numérique en général, c'est de montrer qu'à l'échelle de l'université, du centre universitaire départemental de La Roche, on a plein de compétences complémentaires. Donc ce soir, on sera trois. Il y aura Guillaume, qui est un collègue qui travaille plus dans le domaine de l'électronique, un collègue juriste, et puis moi. Et on va essayer, autour du thème des objets connectés, de décliner... Alors les enjeux techniques, il y en a plein, il y a des questions d'interopérabilité par exemple, c'est compliqué de connecter une cafetière machin avec un frigo qui n'est pas de la même marque ou ouais. Avec un ordinateur pareil, donc les enjeux techniques ça ce sera plus Guillaume. Sur les enjeux en termes de liberté numérique, hein, là aussi... Quand on est dans des maisons où beaucoup d'objets sont connectés, il y a beaucoup d'informations qui est captée sans qu'on s'en aperçoive nécessairement et qui peut être utilisée, pas tout le temps, mais parfois, à des fins qui sont pas toujours raisonnables ou explicites. Donc ça pose des questions de liberté numérique et puis ça pose plein de questions sociales ou sociétales. On est dans des environnements ultra connectés où en permanence on est sursollicité déjà avec des régimes de notification. Bon, il faut s'imaginer, il y a une journaliste qui a fait l'expérience récemment. Elle s'est enfermée pendant 15 jours dans sa maison où elle a installé tout ce qui se faisait en termes d'objets connectés, des aspirateurs connectés, des cafetières connectées, des télé connectées, etc. Et elle a fait le bilan avec un ingénieur et un juriste au bout de 15 jours. Et c'était la catastrophe. C'est-à-dire que pour elle, c'était ingérable en termes de paramètres. C'est-à-dire que la plupart du temps, la cafetière n'était pas compatible avec l'application du smartphone. Donc finalement, le plus simple encore, c'était de se lever le matin pour faire son café à l'ancienne. Ouais. Elle s'est aperçue, elle avait installé des dispositifs de vidéosurveillance et de télé connectée. Elle s'est aperçue que la télé en permanence, parfois même lorsqu'elle était en veille, continuait de capter des images et de l'envoyer dans le cloud. Donc il y avait des vidéos d'elle se baladant à moitié nue dans son appartement, ce qu'elle a parfaitement le droit de faire, mais enfin sans savoir qu'elle était filmée à ce moment-là.
Ouais.
Donc ça pose plein de questions, voilà, de vie privée.
Et puis généralement, dans ces outils-là, il y a toujours le fameux, ce qu'on appelle un CLUF, qui est en gros le texte qu'il faut lire. Et on dit « j'accepte toutes les conditions ». Mais généralement, ce CLUF, si on l'imprimait, il y en aurait pour... Enfin, c'est la bibliothèque d'Alexandrie, il y aurait du papier
ouais, à foison. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les petits alinéas ou les trucs marqués un petit peu en tout petit, comme dans les vieux contrats d'assurance, sont d'abord faits pour ne pas être visibles et lisibles ou rédigés dans un anglais juridique qui même pour les spécialistes c'est parfois compliqué. Et puis tout simplement voilà, on a tous plein de choses à faire, donc quand on installe un outil on ne fait pas ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est-à-dire lire les conditions générales du utilisation, essayer de les comprendre et puis essayer ensuite de, d'avoir un usage raisonnable, ou en tout cas de ne pas installer cet outil si les conditions générales sont trop abusives.
Oui, effectivement, là, il y a beaucoup de choses à faire et justement, on sort un petit peu de la simplicité tant vantée par ces entreprises. Et puis, pas que ces entreprises de cafetières connectées ou de télé qui font pas que montrer des images, mais qui en captent aussi, aussi les plateformes qui sont assez fortes dans le domaine, finalement. Enfin, il y a pas mal de choses à dire, ça, je pense qu'on va vraiment pouvoir avoir plus qu'un aperçu. Donc, ce soir, 18h30 pour cette soirée débat, le débat à table ronde demain à 12h15, et puis, évidemment, tout au long des différentes journées du numérique du 20 au 22 mars, c'est-à-dire aujourd'hui, demain et après-demain, jeudi, pour ces ateliers, le Repair Café, l'obsolescence programmée, ou encore la copie partie. Et puis, voilà, si on devait résumer, j'ai le mot chouquette qui me vient à l'esprit, mais...
Oui, on a essayé d'organiser ces journées autour d'une thématique qui était d'être disruptif de la chouquette, parce que la disruption est à la mode et la chouquette, on aime ça, donc on a essayé de conjuguer les deux.
Voilà, comme l'indique votre badge, Olivier Erched, merci à vous.
Merci.
Vous êtes enfin surtout enseignant-chercheur, et voilà, merci pour toutes ces informations. On va vous retrouver donc dans ces journées du numérique.
Merci.
Quant à nous, sur Graffiti, eh bien, cette émission du réseau urbain spécial Journée du numérique se poursuit. Et donc, on retrouve à présent Julie, étudiante à l'IUT de La Roche.
Bonjour. Julie.
Et Julie, eh bien, je vais te laisser nous présenter ton invité qui est assis à notre table.
Voilà, alors juste à ma gauche, Sullivan Joanneau, bonjour.
Bonjour.
Je vais directement vous laisser vous présenter, hein, puisque vous êtes le mieux placé pour parler de vous-même, je dirais. Donc, est-ce que vous pourriez un petit peu nous récapituler votre parcours et ce pourquoi vous êtes ici pour ces journées du numérique ?
Alors, je m'appelle Sullivan Joanneau, je suis enseignant-chercheur à l'IUT Génie biologique de La Roche-sur-Yon. Et donc, j'enseigne donc à l'IUT dans les disciplines de traitement de l'eau. Et mes activités de recherche sont menées dans le domaine de le diagnostic environnemental, donc la caractérisation, l'aspect qualitatif de l'environnement, essentiellement dans l'eau. Et donc, dans ce contexte-là, on développe des outils de mesure, type drone, type capteurs divers. Et c'est dans ce contexte-là qu'on nous a demandé d'intervenir, notamment au travers des drones, puisque le numérique, aujourd'hui, on l'utilise quotidiennement pour pouvoir concevoir des outils, concevoir des machines qui nous permettent de diagnostiquer l'environnement.
Et justement, ces drones, concrètement, à quoi est-ce qu'ils vous servent lors de vos travaux de recherche ?
Alors, les drones, en fait, on les développe... Pardon. On a développé ces outils-là dans le cadre d'un projet étudiant. L'objectif, c'était de voir l'environnement avec un maillage un peu plus fin, de pouvoir faire finalement une sorte de cartographie de plans d'eau. Et pour ça, on avait besoin d'outils, parce qu'aujourd'hui, il existe des outils. On peut imaginer des bateaux, des gens qui se baladent sur les bateaux. Le problème, c'est que finalement, ça prend du temps, c'est pas forcément pratique. Donc on voulait des outils beaucoup plus petits, beaucoup plus simples. Et ces outils-là sont extrêmement onéreux, donc on s'est dit on va développer les nôtres et à moindre coût, et c'est un petit peu ce qu'on a fait. Donc on a développé ces outils-là qui sont encore en phase de développement aujourd'hui, mais pour réaliser ces cartographies, pour voir finalement comment se développe la pollution, comment elle s'étend dans un réseau d'eau. Voilà.
Et donc ces outils faits maison, je suppose que c'est fait avec imprimante 3D, ce genre d'outils-là ?
Exactement. On a besoin, pour pouvoir répondre à... enfin modifier ces supports. Donc on est parti de bateaux de pêche, tout simplement, de bateaux qui sont utilisés dans le domaine de la pêche, qu'on a détournés pour nos applications. On a embarqué des capteurs, on a embarqué de l'électronique pour pouvoir driver ces sondes, mesurer, enregistrer les paramètres. Et donc pour ça, on a effectivement besoin d'imprimantes 3D, on a besoin de cartes électroniques qu'on intègre directement dans nos capteurs, dans nos drones, pardon.
D'accord. Et donc là, on le voit, vous venez de nous le dire, il y a du numérique depuis la conception jusqu'à la mesure. Vous sentez que dans votre axe de recherche ou dans la biologie en général, il y a vraiment une présence de plus en plus forte du numérique depuis ces dernières années ?
Oui, effectivement, parce que le numérique, on l'a au quotidien, on l'a pour la conception, mais on l'a également énormément pour le traitement de données, puisqu'aujourd'hui, on a beaucoup de données, c'est facile d'acquérir des données. Maintenant, la grosse difficulté, c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière. Et pour ça, on a besoin d'avoir des outils de calcul qui nous permettent de prendre en considération l'ensemble des données qu'on a pour arriver à en avoir des informations qui soient utilisables, exploitables et simples, faites pour les utilisateurs.
Donc, vous confirmez, il y a vraiment des avancées qui n'auraient pas été possibles sans le numérique.
Disons que le numérique, effectivement, on le voit au travers de la puissance de calcul des ordinateurs ou tous les outils qui sont beaucoup plus accessibles aujourd'hui, ça nous permet d'entrevoir des possibilités qu'on n'avait pas il y a quelques années.
Et vous parliez de capteurs, j'ai fait mes petites recherches aussi de mon côté et j'ai vu que pour le diagnostic, vous utilisiez des biocapteurs. Comment est-ce que ça fonctionne ?
Alors, le principe d'un biocapteur, c'est qu'on utilise non pas un capteur physico-chimique, comme on utilise comme un capteur de pH, par exemple, ou ce genre d'éléments. On va utiliser, par exemple, des micro-organismes. C'est eux qui vont nous renseigner sur la qualité de l'eau. Je prends un exemple, on a il y a quelques années travaillé sur des micro-organismes modifiés qui étaient capables de détecter spécifiquement la présence de certains métaux. Et en fait, au moment où ils étaient en contact avec ces métaux dans l'eau, elles produisaient de la lumière. Et ça nous permettait de révéler directement la présence de ces composés, de ces polluants, mais au travers de capteurs qui finalement sont des capteurs biologiques. L'intérêt, c'est qu'on s'intéresse vraiment à l'aspect... Le niveau de pollution qui est en lien direct avec le vivant. Voilà.
Donc finalement, pour une fois, il n'y a rien de numérique dans tout ça. Tout est dans le vivant avec ces micro-organismes. Et en même temps, il y a besoin quand même de mélanger les deux, entre guillemets, le numérique et...
Effectivement, pour faire le capteur... Le capteur va nous donner une première information. Et cette information, il va falloir la récupérer, la traiter. Et là, on a besoin du numérique pour ça.
Et aujourd'hui, on a besoin autant de compétences numériques que de compétences en recherche. Vous le ressentez, vous qui êtes donc enseignant à l'IUT de La Roche-sur-Yon, au niveau des enseignements, ça a changé aussi cette intégration du numérique dans le travail de recherche biologique ?
Alors oui, dans le sens où effectivement, c'est la première année où on a proposé un sujet de recherche en lien, enfin un sujet de projet, donc mené par des étudiants, mais qui sortaient un petit peu de leur champ d'action habituel. C'est des biologistes qu'on forme essentiellement. Et là, on leur a demandé de s'attaquer à des problématiques de drones, d'électronique, de programmation, qui finalement sont pas dans leur champ de connaissances habituelles. C'est pas ce qu'on leur demande dans le cadre de la formation. Mais on va aller au-delà, puisque potentiellement, demain, ils peuvent en avoir besoin. Et on le voit bien au quotidien dans nos travaux. C'est qu'on est tous, je vois au sein du laboratoire, on a tous des spécialités. On est biologiste ou chimiste. Mais finalement, le numérique est indispensable pour traîner les données, pour répondre aux besoins et pour pouvoir s'adapter facilement et rapidement à des thématiques de recherche qui peuvent évoluer dans le temps.
Donc là, c'est plutôt directement vous qui vous formez ou est-ce que parfois vous faites appel aussi à des personnes qui sont plus spécialisées dans le numérique pour le traitement après derrière des données ?
Alors nous, dans un premier temps, on développe des stratégies où effectivement on est obligé de se former dans un premier temps pour dégrossir le travail, voir s'il y a un réel intérêt d'aller creuser. Et ensuite, ça sort complètement de notre champ de compétences et on va chercher l'expertise chez des spécialistes qui, eux, seront beaucoup plus performants, vont pouvoir affiner le travail. Mais dans un premier temps, ça nous permet vraiment de dégrossir et de voir s'il y a un réel intérêt de se focaliser sur ces aspects-là.
Donc les métiers de la biologie sont amenés à évoluer et même peut-être à se démultiplier
Alors les métiers, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de plus en plus de gens qui sont pluridisciplinaires. Et la pluridisciplinarité, la grosse difficulté, c'est d'arriver à avoir un langage commun, finalement, d'arriver à discuter, qu'un biologiste puisse discuter avec quelqu'un de l'informatique ou un électronicien, où les langages sont complètement différents. Et pour ça, en fait, on a besoin, effectivement, d'avoir, à un moment donné, un langage qui permet d'être compris par tous. Donc, d'où l'intérêt d'avoir, à un moment donné, de se former, d'avoir des bases, en fait, pour pouvoir comprendre.
D'accord, donc pourquoi pas imaginer un lien entre le département génie biologique et celui des réseaux et télécommunications ?
On a déjà eu des liens, on a déjà eu des projets en collaboration, notamment tout à l'heure Olivier parlait de Guillaume Andrieux. On a eu un projet avec lui il y a quelques années sur une thématique de mesure dans l'environnement.
D'accord. Concrètement, mis à part au niveau des biocapteurs, est-ce qu'il y a des moments où quand même on peut se passer du numérique ou vraiment aujourd'hui vous pouvez plus vous en passer dans vos recherches ?
On a de plus en plus de mal à s'en passer parce que finalement le numérique est vraiment indispensable à tout niveau. Ça peut être en amont, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin du numérique pour faire des tests, par exemple, vous parliez tout à l'heure de l'imprimante 3D, ça nous permet de fabriquer des des débuts de prototypes, d'exemples, d'applications, est-ce qu'il y a un intérêt. Et ensuite, on va vraiment l'utiliser quasiment au quotidien pour le traitement des données. Le traitement des données, on a besoin d'outils qui nous permettent de le faire. Et on se forme tous à la programmation, plus ou moins, parce que c'est des outils qui sont indispensables aujourd'hui.
Et est-ce que parfois ça a aussi ces petits inconvénients, le numérique, ce qu'on imagine notamment dans le traitement et le stockage après des données, que c'est énormément de données et ça peut parfois il peut y avoir peut-être avoir un problème ou...
Alors effectivement, le stockage des données, ça devient un problème auquel on n'était pas confronté jusqu'ici. C'est que maintenant on est capable de... Là j'ai un collègue qui travaille sur de la microscopie RAMAN et c'est de l'imagerie en très très haute définition. Et là, pour le coup, une image, ça fait, de mémoire, ça fait un téra quasiment. Donc on sature très rapidement les serveurs, donc on est obligé de se poser la question de savoir comment on va gérer ces données-là, comment on va les traiter, comment on les conserve. Et finalement, toutes ces questions-là, on ne se les posait pas il y a 5 ans de ça, parce qu'on n'avait pas ces outils-là à disposition.
Et là, actuellement, comment vous faites pour gérer tout ce stockage de données, pour répondre à ces questions
Alors, pour actuellement, on utilise essentiellement soit les serveurs de l'université, soit éventuellement du stockage temporaire sur les ordinateurs locaux. Et puis, on ne conserve pas les données sur du très long terme.
D'accord. Vous parliez justement d'avoir des compétences en programmation. Ça va être nécessaire dans le domaine de la recherche biologique, dans le domaine de la recherche en général. Et est-ce que vous pensez que plus tard, n'importe qui aura besoin d'avoir des bases de programmation, que ça va devenir la norme ?
Alors peut-être pas des bases de programmation dans le sens où maintenant on voit bien les outils qui apparaissent sur le commerce, les cartes électroniques, etc. De plus en plus, ça fonctionne un peu comme des Legos, c'est-à-dire que c'est des briques qu'on va assembler et c'est de plus en plus abordable. Donc aujourd'hui, on voit que ça se développe vraiment, qu'il y a une vraie demande autour de tout ça et on se rend bien compte que c'est des outils qui sont de plus en plus faciles d'accès. Donc les concepteurs finalement pensent aussi aux utilisateurs en faisant des outils qui soient très faciles à utiliser. C'est des briques qu'on va assembler et qui sont à la portée de tous après, dans un premier temps. Après effectivement quand on veut se perfectionner, on va aller plus loin, eh ben, on va nécessairement aller chercher des outils plus performants et moins adaptés à un usage du grand public.
Oui, donc c'est vraiment vous par la précision des informations et des données qui fait qu'il y a besoin de... vraiment de connaissances spécifiques. Est-ce qu'on peut faire une petite comparaison un peu avant-après le numérique ? Vous, quel changement concret vous avez vu au niveau de vos pratiques
Alors, c'est un peu difficile parce que moi, je suis enseignant-chercheur depuis assez peu de temps. Ça va faire 4 ans et le numérique était déjà existant. Et j'ai toujours travaillé en lien avec le numérique. Donc finalement, j'ai pas d'avant. Clairement, ça va être difficile pour moi de vous donner un exemple d'avant, puisque j'ai toujours connu ça.
D'accord. Oui, donc ça fait quand même plusieurs années que le numérique est vraiment présent. Écoutez, merci beaucoup pour cette interview, Sylvain Joanneau. Et puis, on peut peut-être préciser que cet après-midi, vous étiez, vu l'heure de diffusion, à la BU pour expliquer justement en quoi le numérique, les drones aquatiques, les imprimantes 3D et autres machines fascinantes occupaient votre travail.
Merci à vous.
Merci à vous deux, merci Julie, merci Sullivan Voineau. Et puis on vous retrouvera, si vous avez raté cet après-midi, on va vous retrouver demain après-midi de midi à 14h. Il y a un atelier, quand le numérique vient au secours de la biologie, on va tout savoir pour ces thématiques-là. Merci à vous deux, merci beaucoup Julie, merci beaucoup Mathilda, merci également à nos invités. Et puis on invite nos auditeurs sur Graffiti Urban Radio à se présenter. C'est tout à fait libre, ouvert et gratuit pour ces journées du numérique du 20 au 22 mars 2018, c'est donc les 3 jours qui viennent. Et puis l'actualité, ça va être à 18h30, dans quelques minutes maintenant, dans une demi-heure, une soirée débat objets connectés et liberté numérique. Merci à vous, merci à vous tous, et puis merci également de nous avoir accueillis. Et là, je m'adresse effectivement à la bibliothèque universitaire et au pôle universitaire lyonnais. Bonne soirée et à demain 17h.